الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الحادي عشر من شهر رجب من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السابع في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 17 mars 2019 et nous voici réunis pour le 7e cours de l'étude du livre intitulé مسائل الجاهلية, les pratiques de l'ère pré-islamique, de l'auteur Mohammed, fils de Abd al-Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une grande et énorme récompense. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit Al-Mas'alatul Arba'un, la question 40, parmi les actions, les coutumes, les pratiques adoptées par les gens ignorants de l'ère pré-islamique. At-ta'til ka qawli ali fir'aun, ce que l'on appelle at-ta'til. Et at-ta'til, nous l'avons déjà défini lors du cours précédent en disant qu'il s'agissait de dépouiller les mots de leur sens, de vider les mots de leur sens en niant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé concernant lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe le concernant qu'il est élevé au-dessus de ses créatures, n'est-ce pas? Quiconque veut renier, rejeter cette information est tombé dans une des pratiques de l'ère pré-islamique, qui est appelée at-ta'til, qui est la négation ou alors le fait de nier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé, subhanahu wa ta'ala. Et tous les gens qui n'ont pas suivi la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le domaine de la croyance en Allah azza wa jal, ses noms et ses attributs, sont tombés dans cette pratique de Pharaon et ses suiveurs. Ils ont alors nié ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé dans son livre et dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal nous parle de cet agissement qui est celui de Pharaon, comme vous le savez, à qui a été envoyé le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam a invité Pharaon à revenir à Allah azza wa jal, à l'adorer seul, un culte sincère. Elle a informé qu'Allah est le créateur au-dessus des cieux et de la terre. Qu'est-ce que Pharaon a répondu à cette information? Ce qu'Allah azza wa jal nous cite dans Surat al-Qasas, lorsque Pharaon va dire à Haman, qui est avec lui, qui est comme son ministre, il lui dit: Ya Haman, ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Il lui dit: Ya Haman, la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Ô Haman, construis-moi une tour, peut-être vais-je atteindre une voix des cieux me permettant d'atteindre la divinité de Moussa. Et certes, je le vois comme un menteur. Pharaon, quand Moussa alayhi salam l'a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses attributs l'élévation au-dessus du ciel, au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala, qu'il est au-dessus de toutes ses créatures, ça c'est une croyance à laquelle le musulman a l'obligation d'adhérer. Celui qui n'y croit pas est tombé dans un annulatif de l'islam. Car c'est un fondement essentiel de la religion que de croire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de toutes ses créatures. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Il a pris cette information en dérision. Et il a dit à son ministre Haman, construis-moi une tour afin que je gravisse les sommets ou alors afin que je m'élève en hauteur pour aller voir qui est-ce que Moussa adore. Et Moussa est un menteur. Donc, les savants disent que ceux qui ont été les guides des innovateurs aujourd'hui, qui renient les noms ou les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont Pharaon et ceux qui étaient avec lui. Pharaon a aussi dit, فَأَوْقِدِلِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Il dit encore à Haman de lui construire à partir d'argile quelque chose d'élevé sur lequel il monterait pour voir, pour atteindre Allah. Puis il dit à la fin, et pour moi, il fait partie des menteurs. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala, a dit, « Hadha huwa at-ta'til. » C'est ce que l'on appelle « at-ta'til », c'est-à-dire le fait de nier l'attribut d'Allah. Ainsi, celui qui, par exemple, viendrait à dire, « Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de miséricorde », a rejoint Pharaon. Celui qui voudrait dire « Allah n'a pas de visage, n'a pas de main, n'a pas de... » en parlant de tout ce qu'Allah s'est affirmé lui-même, dans le Coran ou dans la Sunna, ces choses-là relèvent de l'invisible. On ne peut donc pas, nous-mêmes, donner ces informations sans les avoir lues dans le livre ou dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors qu'elles sont affirmées, quiconque viendrait renier cet attribut qu'Allah s'est affirmé aura alors suivi Pharaon dans cet agissement. Wallahu al-musta'an. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que les raisons saines, la raison saine de l'homme suffit pour montrer le mensonge de ces gens-là. Ceci car il est impossible qu'une créature puisse exister sans un créateur, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat At-Tur, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. » Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils les propres créateurs ?« Am khalaqu samawati wal ard. » Ou bien ont-ils créé les cieux et la terre ?« Bal la yuqinun. » Mais plutôt, ils ne sont pas certains. Et ce verset a été d'ailleurs la cause de l'islam du compagnon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anh, qui est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était pas encore entré dans l'islam pour négocier avec lui sur une certaine affaire. Et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleine prière qui récitait justement ces quelques versets. Lorsqu'il a écouté lui qui est arabe et qui parle cette langue, qu'il a écouté ce dialogue ou alors ce discours où on lui dit « Est-ce que tu t'es créé tout seul ou as-tu été créé par quelque chose ?» Il a dit « La foi a pénétré dans mon cœur et elle s'est enracinée. » Il a même dit que son cœur a failli voler de foi. Car cela suffit pour reconnaître la grandeur et la puissance d'Allah, la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. L'auteur rahimahullah ta'ala dit Al-mas'alatu al-hadiyatu al-arba'un nisbatu an-naqa'isi ilayhi subhanahu kal-waladi wal-hajati wat-ta'ab ma'a tanzihi ruhbanihim 'an ba'd dhalik. Question 41. Ils attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections telles que l'enfant, le besoin et la fatigue, tout en disant de ceux qui sont appelés ar-ruhban, les moines, les adorateurs, qu'ils n'avaient pas ces choses-là. C'est-à-dire que chez les gens du livre, particulièrement dans le christianisme, depuis l'époque pré-islamique jusqu'à nos jours, vous savez que chez eux, il y a le fait, pour certains, de ne pas épouser de femme ni d'avoir d'enfants, d'après eux, pour s'adonner à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour les femmes, qui ont choisi, d'après elles, de se délivrer pour Jésus, Isa alayhi salam, ou alors pour l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se marient pas, n'ont pas d'enfants. Et les gens de l'époque pré-islamique n'hésitaient pas à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une compagne et s'est donné des enfants ou un enfant. Certains disaient que Isa alayhi salam est le fils d'Allah. D'autres disaient que les anges sont les filles d'Allah. D'autres disaient que les djinns sont les enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ils n'acceptaient pas de dire que les moines avaient des enfants. Car pour eux, c'était un manquement de dire qu'ils avaient une compagne ou des enfants. Et ça, c'est la contradiction dans toute sa réalité. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Il n'a aucune imperfection. Avoir un enfant est une bonne chose pour l'homme. Parce que l'homme a besoin de compagnie, a besoin de se réjouir, a besoin d'aimer des enfants, a besoin d'être avec des enfants. Et tout cela, en réalité, est une faiblesse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est exempt. Allah a-t-il besoin? A-t-il besoin d'enfants? A-t-il besoin de se réjouir? Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes les créatures. Il n'a aucun besoin, il est riche, il se passe de tout. Il nous a créés pour l'adorer et il n'a pas besoin de notre adoration. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de décrire Allah Azza wa Jal comme ayant un enfant, pour aller dire ensuite d'une créature que c'est un manque de respect à son égard de dire qu'elle a un enfant, c'est vraiment que la raison a disparu. Et qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Pour cela, il est dit que chez les prédécesseurs, il y a un musulman qui a rencontré une communauté des gens du livre, des chrétiens. Et il y avait avec eux justement un rahib, un moine, qui refuse de se marier, d'avoir des enfants. Le musulman lui a dit, et a dit à tout le monde, après leur avoir demandé de leurs nouvelles et les avoir salués, a dit à ce moine, comment vont l'épouse et les enfants. Les gens l'ont mal pris autour de lui. Ils ont dit, comment peux-tu dire cela, donner une épouse et des enfants à ce moine? Et lui a répondu, et vous, comment pouvez-vous le dire d'Allah, le Créateur? Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et ça, c'est un des agissements des gens de l'ère pré-islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Dans le sens rapproché du verset, il déclare qu'Allah a des filles, exempt soit-il. Subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, ويجعلون لله ما يكرهون. Et il déclare à Allah ce que eux-mêmes détestent. Les gens de Quraysh n'aimaient pas les filles. Lorsque la mère accouchait, ils attendaient. Si un garçon naissait, ils le laissaient en vie. Si c'était une fille qui naissait, ils avaient le choix entre deux solutions. La première était de le tuer immédiatement, ou la deuxième, de la cacher et de l'avilir, de ne jamais la montrer aux gens. Eux détestent la fille, au point de la tuer quand elle naît, alors qu'elle est un bienfait immense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'ont pu vivre que par la cause d'une fille qui les a portés dans son ventre. Et ensuite, Ils disent qu'Allah a des fils, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une pratique des gens de l'ignorance. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, Al-mas'alatu thaniyatu al-arba'un. La question 42. Al-shirku fil-mulk. Ka-qawli al-majus. L'association à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le royaume. Ou alors, dans la possession. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur de toutes choses sans exception. Tout appartient à Allah seul, unique, sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Certes, il est possible que l'un d'entre nous possède des choses, comme des biens ou autres. Mais en réalité, cette possession est à Allah azza wa jal. Et elle est relative, dans le sens où c'est quelque chose qu'Allah t'a donné. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Si tu as des biens, tu ne peux pas les détruire. C'est interdit de les détruire. Qui est-ce qui t'a interdit de les détruire? Celui qui les possède par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là donnaient des égaux à Allah azza wa jal dans la possession. Tout comme ils lui donnaient des égaux subhanahu wa ta'ala, dans ce domaine-là. Et l'auteur a dit, ils ont tenu la même parole que celle de ceux appelés al-Majus, les Mazdéens. Et ces gens-là, qui sont des polythéistes, ont la croyance en deux créateurs. Le créateur de la lumière et le créateur des ténèbres. Le créateur du bien et le créateur du mal. Ils ont donc déclaré qu'il y a deux possesseurs. Celui qui possède le bien et celui qui possède ou qui a créé le mal. Pour cela, les savants de la Sunna ont dit concernant ce que l'on appelle Al-Qadariya, la secte égarée, qui prétend que les actions que l'on fait sont le fruit de notre propre création et n'ont pas été créées par Allah, Azza wa Jal. Car comme vous le savez, tout a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est créature a été créé par Allah, comme vos actions. Ce mouvement que je suis en train de faire en ce moment a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux disent non. D'après eux, ce mouvement est créé par celui qui est en train de le faire devant vous. Wal'iyadu billah. Les savants de Salaf, de la Sunna, ont dit que Al-Majus, Al-Qadariya, Majus ou Hadil Ummah, que les Qadariya sont comme les Majus de cette communauté. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Les Anna al-Majus athbatu khaliqan ma'allahi azza wa jal. Car les Majus ont cru qu'il y avait un autre créateur qu'Allah, le créateur des actions. Si d'après eux chacun est le créateur de ses propres actions, il y a donc plusieurs créateurs. En cela, ils ont rejoint les Majus qui ont dit qu'il y a deux créateurs, le créateur du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Ces gens-là de l'époque pré-islamique avaient ce genre d'agissement et adhéraient à ces croyances malsaines. Ils disaient qu'il y avait des possesseurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Majus sont les adorateurs du feu. Comme nous le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui sont issus à la base de ce que l'on appelle Faris, qui est l'Iran actuel. On n'est donc pas étonné de voir leurs descendants et leurs égarements à cette époque que l'on vit, qui sont les chiites, Rafidah. Cette secte la plus mauvaise. Wallahu musta'an. Ainsi, l'on voit l'égarement et le polythéisme dans lequel ils sont tombés dans le domaine de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, « وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلْ مُنَاقِضٌ لِلْأَدْيَانِ وَالْفِطَرْ » Cette idéologie ou cette croyance est caduque. Elle annule toute religion et toute raison saine. Il n'y a qu'un créateur, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Al-mas'alatu thalithatu wal-arba'un, la question 43. Juhudul qadr, c'est justement le fait qu'il rejetait le destin. Il rejetait le destin. Et al-qadr, la foi au destin, est un pilier de la foi. Quand on dit que le musulman doit connaître sa croyance, al-aqida, sa croyance a six bases fondamentales, six piliers essentiels. Si un n'est pas respecté, la personne n'est pas croyante. Et parmi ces piliers, il y a justement la foi au destin. Et la foi au destin implique plusieurs choses que l'on va voir, incha'Allah ta'ala. Mais de manière générale, c'est de croire que tout a été décrété par Allah, décidé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens ou les personnes ne pourraient être croyants sans adhérer à cette croyance. Celui qui mécroit au destin, qui met en doute ou qui remet en doute la foi au destin, n'est pas musulman. Il est d'une autre religion, celle qu'il aura choisie, mais en tout cas il n'est pas musulman. Le musulman croit au destin et sait que tout a été décrété par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine, car comme vous le savez, les anges peuvent prendre la forme humaine. C'est une capacité qu'Allah leur a accordée. Jibril alayhi salam, sous la forme humaine, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer de ce qu'est la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondant a dit « Al-Iman » La foi, an tu'mina billah, consiste à ce que tu crois en Allah, wa malaikatihi, ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wa al-yawm al-akhir, le jour dernier, wa al-qadari, wa an tu'mina bil-qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu aies foi ou que tu crois au destin, que ce qui a été décrété soit bon ou non. Et qu'est-ce que les savants ont remarqué dans ce hadith? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en définissant la foi, a dit « an tu'mina ». La foi consiste à ce que tu crois. Puis il a cité cinq piliers. Lorsqu'il est revenu au sixième, qui est la foi au qadar, il a réitéré le verbe « croire » en disant « wa an tu'mina » et que tu crois au destin, bon soit-il ou mauvais. Alors qu'il ne l'a pas fait pour les autres piliers. Il n'a pas dit pour que tu... La foi consiste à ce que tu crois en Allah, que tu crois au livre, que tu crois au messager. Il ne l'a fait que pour Allah Azza wa Jal, puis pour le destin. Tout cela pour appuyer sur l'importance de la croyance au destin. Et d'ailleurs, on retrouve souvent dans les hadiths ou dans les textes du Coran, la foi en Allah reliée à la foi au jour dernier. لا تجد قوما يؤمنون بالله و نعم. Là, c'est autre chose. Là, on parlait du destin, j'ai fait erreur. Donc, on voit l'importance de la croyance au destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Certes, nous avons créé toute chose avec sa mesure, c'est-à-dire en lui décrétant. Allah Azza wa Jal a créé toute chose et il a décrété à ce qu'il a créé justement tout ce qui lui arrivera. La foi au destin, de manière plus détaillée, implique quatre choses. La première, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui existe. Tout ce qui a existé. Tout ce qui va exister. Et même tout ce qui n'a pas existé, si ça devait l'être, comment cela aurait été? C'est-à-dire croire à la science infinie et parfaite d'Allah Azza wa Jal de toutes choses. C'est indispensable pour croire au destin, de croire qu'Allah Azza wa Jal connaît, a connu, connaît toujours toutes choses subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est l'iman bi anna Allah kataba dhalika kullahu fi al-lawh al-mahfouz. Croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout cela dans la table gardée. Tout ce qui arrive, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été voulu par Allah, tout ce qui existe, ce qui a existé, ce qui existera, a déjà été écrit dans la table gardée, qui est une créature d'Allah Azza wa Jal. Puis il a créé la plume, à qui il a ordonné d'écrire. La plume a demandé à Allah Azza wa Jal, comme on le voit dans le récit authentique, « Que dois-je écrire ?» Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'écrire tout ce qui existera, tout ce qui arrivera, jusqu'au jour dernier, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, al-imanu bi anna Allah sha'a kulla shay'in yaqa'u fi hadha al-kawn. La foi en la volonté d'Allah. C'est-à-dire que tout ce qui se produit et existe dans cette existence, dans ce monde, a été voulu par Allah. Rien ne peut se produire dans le royaume d'Allah, qui est sous la domination d'Allah, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Mais il l'a voulu pour des sagesses parfaites. Parfois, nous pouvons les atteindre, et d'autres fois, elles nous échappent. En tout cas, Allah, lui, est parfait. Et toutes ses actions sont parfaites et sages. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, rabi'an, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli shay. Croire qu'Allah est créateur de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé tout. Donc, lorsque l'on dit croire au destin, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala a connu toutes ces choses. Il les a écrites. Il les a voulu, puis il les a créées. Elles se sont donc produites. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça la croyance au destin en détail. Mais si l'on disait qu'est-ce que croire au destin de manière générale, croire qu'Allah a tout décrété. Subhanahu wa ta'ala. Mais en détail, ce sont les quatre points que vous venez d'entendre. Ainsi, ces gens-là, de l'époque pré-islamique, et même ceux qui les suivent à notre époque ou à toute époque, ont mécru au destin, ils l'ont remis en question, ils ont semé le doute dans cette croyance, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clairement montré dans son livre et dans la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que c'est un pilier indispensable de la croyance du musulman. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « Al-mas'alatu al-rabi'atu al-arba'un » La question 44 « Al-ihtijaju ala Allahi bihi » Il se justifiait devant Allah par le destin. C'est-à-dire que quand ils commettent un péché, ils disent « Allah l'a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. » Ainsi, ils pensent trouver une parade pour éviter les reproches qui pourraient leur être faites. Et ça, c'est ce que l'on voit aussi aujourd'hui chez beaucoup de personnes qui disent « Allah a voulu. Allah a décrété. Que veux-tu que je fasse ?» Par contre, lorsque cette même personne qui tient ses propos est affamée, elle ne reste pas assise et disant « Allah l'a voulu ». Elle se lève, elle s'habille, elle sort de chez elle, et elle se dirige vers l'endroit où elle va trouver sa subsistance à manger, n'est-ce pas? Lorsque cette personne tombe malade, elle ne reste pas assise en disant « Allah l'a voulu », mais plutôt elle consulte, elle se soigne, elle consomme, ce qui sera susceptible d'être la cause de sa guérison, n'est-ce pas? Par contre, lorsqu'elle désobéit à Allah, la voilà d'un coup à croire au destin et à dire « Allah l'a voulu ». Alors que l'on ne peut pas justifier ses péchés par le destin. On ne peut pas dire Allah l'a voulu, puis désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un égarement manifeste. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit que ces gens-là pensent qu'ils sont excusés de leur mécréance ou leur désobéissance parce qu'Allah l'a décrété. Allah a décrété leur désobéissance, il a décrété leur mécréance. C'est donc pour eux une excuse qui va leur permettre donc de s'étaler dans ce péché ou dans cette mécréance. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit « Wa la yarda li'ibadihi al-kufr » et Allah n'est pas satisfait de la mécréance de ses serviteurs. Donc comment les serviteurs peuvent-ils mécroire et dire Allah l'a décrété alors qu'Allah azzawajal lui-même leur dit qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'agrée pas pour eux la mécréance. De même, comment pourrait-il dire Allah a décrété lorsqu'il parle de péché alors qu'ils savent qu'Allah azzawajal a interdit ces péchés. Subhanahu wa ta'ala. Allah a tout décrété. Et nous avons vu cette question plus en détail dans l'Aqidatul Wasitiyya. Mais de manière générale, nous savons qu'Allah Azza wa Jalla a tout décrété. Cependant, nous ne pouvons pas justifier notre envie de désobéir à Allah Azza wa Jalla par le fait qu'Allah a décrété. Si vous voulez voir tout cela plus en détail, vous reviendrez au livre précité, Insha'Allahu Ta'ala. Ainsi, nous dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la raison et qui a la faculté de choisir, de réfléchir, de choisir, et qui n'est pas forcé ou qui n'est pas sous la contrainte lorsqu'il commet un péché, celui-ci, il va être puni par Allah si Allah le décide. Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a commis ce péché de son propre gré. Il a choisi, celui qui a choisi de forniquer, celui qui a choisi d'abandonner la prière, il ne peut pas dire Allah l'a décrété. Puis il continue dans son péché en disant Allah l'a décrété. Quel égarement de dire cela. Et c'était justement la pratique des gens de l'ère pré-islamique. Certains pourraient dire, il est rapporté chez l'imam al-Bukhari, la discussion, le dialogue entre Adam alayhi salam et Moussa alayhi salam. Adam a dit à Moussa alayhi salam qu'il lui a fait le reproche du fait, Moussa a fait le reproche à Adam alayhi salam d'avoir désobéi à Allah azza wa jal et qu'à cause de cette désobéissance, nous sommes là sur terre. Car à la base, l'homme était... Où est-ce qu'il était l'homme? Fil Jannah. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans un de ses ouvrages, dit que à la base, l'homme, il doit être dans cette dunya comme un étranger qui n'est pas chez lui. Parce que initialement, l'homme chez lui, c'est le Jannah. Il a été sorti du Jannah, du paradis, à cause d'une désobéissance. Mais à la base, il vient de là-bas. Donc il doit ressentir le manque de l'endroit à l'égard de l'endroit d'où il vient. Allahu Akbar. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et donc, lorsque Adam a entendu ce reproche, qu'a-t-il répondu au noble prophète Moussa alayhi salam? Il lui a dit, pourquoi me blâmes-tu pour une chose dont tu sais qu'elle a été décrétée avant même que je ne sois créé ou de manière approximative. Certains ont dit, voici la preuve que l'on peut justifier le péché par la désobéissance. La réponse à cela, car c'est une ambiguïté, c'est en réalité l'incompréhension de la personne. Le péché par le qadar, par le destin, pas par la désobéissance. La réponse à cela, c'est que le prophète Adam alayhi salam n'a pas justifié son péché par la foi au destin. Mais ce qu'il a justifié ici dans cette phrase par le destin, c'est le malheur qui est la sortie du paradis, pas le péché. Comprenez? C'est pour cette raison que les savants disent, nous pouvons justifier le malheur par le destin, mais pas le péché par le destin. Lorsque l'un d'entre nous est éprouvé par un quelconque malheur, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le salut et nous en préserve, il dit « Qaddar Allah ». Allah a décrété. Et quand il va désobéir, il ne dit pas « Qaddar Allah ». Allah a décrété. Ainsi, Adam alayhi salam ne voulait pas parler de son péché, mais il a parlé plutôt de l'exclusion du paradis, qui est un malheur. Et l'homme peut justifier le malheur par le destin. Donc il n'y a pas d'argument pour ces gens-là. C'est un argument contre eux, en réalité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit « Al-mas'alatu al-khamisatu al-arba'un » La question 45. « Mu'aradatu shar'illahi biqadari » Toujours dans le domaine du destin, les gens de l'ère pré-islamique voulaient prouver qu'il y avait entre le destin d'Allah Azza wa Jal et la législation une contradiction. Dans le sens où il disait, si Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété, comment peut-il décréter des choses pour nous les interdire après? Wal'iyadu billah. Et mes frères, la personne qui parle de cette façon ne le fait que parce qu'elle ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sait pas ce qu'est la perfection d'Allah dans ses noms, dans ses attributs. Celui qui sait que son créateur est infiniment sage et que sa science est parfaite, celui qui sait que son Seigneur fait les choses de manière sage et parfaite, ne va pas avoir ce genre d'ambiguïté, de troubles qui vont lui perturber l'esprit, comme c'est le cas de ces gens-là. Le Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وهذه من أخطر مسائل الجاهلية. Celle-ci fait partie des questions les plus dangereuses de l'ère pré-islamique. ويتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة. Ces gens-là de l'époque pré-islamique ont été suivis jusqu'à maintenant par tous ceux qui prétendent qu'il y a une contradiction entre la destinée et la législation. Deux autres mots, la décision et les ordres d'Allah, Azza wa Jal. Le décret et les ordres d'Allah. Pour eux, il y a une contradiction entre ceux-là, alors qu'il n'y a aucune contradiction pour la personne qui comprend sa religion, qui étudie, qui apprend et qui connaît Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des choses telles que la mécréance, le polythéisme, le péché, d'un point de vue, et d'un autre côté, il a prescrit le contraire de ces choses, telles que la foi, le tawhid, la droiture, et il n'y a pas de contradiction, entre ces deux choses. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم فالفعل منسوب إليهم. Les gens sont ceux qui de leur plein gré font leurs actions. N'est-ce pas que lorsque je lève ma main, comme vous le voyez à l'instant, j'ai choisi de faire ce geste? N'est-ce pas que lorsque tu bouges ta tête de cette façon, tu as choisi de faire ce geste? N'est-ce pas que lorsque tu décides de t'appuyer sur le mur ou sur la vitre ou autre, puis tu somnoles, tu as choisi de faire ça, n'est-ce pas? Donc, les choses que tu fais, tu as choisi de les faire. Ainsi, l'action t'est attribuée à toi. L'action, elle t'est attribuée à toi parce que tu as choisi de la faire. Si c'est un péché, tu encours, tu risques le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si c'est une bonne action, tu espères la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout cela a été décrété par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a aucune contradiction dans cela. Voyez un peu la réaction des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète, alayhi salatu wa salam, leur a dit, ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار. Il n'est pas un, il n'y a pas un d'entre vous sans que sa place ne soit connue au paradis ou en enfer. C'est-à-dire, elle a été décrétée. Les compagnons dirent, Ya Rasul Allah, ô messager d'Allah, ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل. Ne devons-nous pas nous appuyer sur ce qui nous a été destiné en délaissant les actions? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez plutôt, chacun sera dirigé vers ce en vue de quoi il a été créé. Toi, tu ne sais pas ce en vue de quoi tu as été créé. Tu ne connais pas ta place, n'est-ce pas? Le fait de ne pas connaître ta place a beaucoup d'intérêts, parmi lesquels craindre l'enfer et espérer le paradis. C'est pour des sagesses qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fait ignorer des choses. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers la manière d'agir. Et Allah azzajal a fait descendre les versets suivants. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. C'est-à-dire, quant à celui qui a fait don, il a donné. Quant à celui qui a fait don et fait preuve de piété et qui a eu, traduction rapprochée, qui a eu foi, nous lui faciliterons, c'est-à-dire nous le dirigerons vers la facilité. Et quant à celui qui s'est montré avare et qui s'est suffi de lui-même et qui a mécru, nous le dirigerons, nous le faciliterons vers la difficulté. Donc il y a ceux qui agissent vers le bien, ils sont alors guidés vers le résultat du bien. Et ceux qui agissent vers le mal, qui sont alors guidés vers le résultat du mal. Les gens dans la croyance au destin, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, se divisent en quatre catégories de personnes. Il y a premièrement ceux qui croient au destin tout en reniant la législation d'Allah, c'est-à-dire les ordres et les interdits. On les appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya sont ceux qui ont la doctrine de croire que nous sommes comme les feuilles qui tombent de l'arbre et qui sont dirigées par le vent. D'après Al-Jabriya, si vous êtes ici, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez été comme soufflé par le vent qui vous a amené ici, le vent du qadar. Vous n'avez pas choisi. Vous êtes forcé. Vous n'avez pas le libre arbitre d'après eux. Deuxièmement, man yuthbitu shar'a wa yanfi al-qadar wa hum al-qadariyya. Il y a ceux qui sont appelés al-qadariyya. Mets ta main devant. Ne laisse pas le shaitan rentrer dans ta bouche. Il y a ceux qui croient en la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui mécroient au destin, on les appelle Qadariya. Troisièmement, man yuthbitu shar'a wal qadar wa yaz'umu anna baynahuma tanaqudan wa hum al mushrikun. Ceux qui disent croire au destin et à la législation tout en prétendant qu'il y a contradiction. Ce sont les polythéistes. Et enfin, man yuthbitu shar'a wal qadar wa yanfi anhuma tanaqud wa hum ahlu sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna qui croient au destin, qui croient aux ordres et interdits d'Allah, tout en reniant le fait qu'il puisse y avoir entre les deux une quelconque contradiction. Voici le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, « Al-mas'alatu sadisatu al-arba'un » La question 46, « Masabbatu d-dahr » Le fait d'insulter le temps. Les gens de l'époque pré-islamique insultaient le temps. Lorsque nous parlons du temps, ce temps dans lequel les choses se déroulent, les choses se passent, les jours, les nuits, les années, les saisons, le temps qui passe. Ces gens-là avaient pour habitude, lorsqu'ils étaient atteints d'un malheur, d'insulter le temps, notamment le moment où ce malheur était arrivé. Il disait, par exemple, si un malheur les avait atteints un jeudi, que le jeudi est un jour mauvais. Et ils insultaient ce jour-là. Ils invoquaient même Allah subhanahu wa ta'ala en disant par exemple qu'Allah maudisse ce jour, qu'Allah maudisse ce mois, car des choses mauvaises me sont arrivées au cours de ce dernier. Ils insultaient le temps. Et insulter le temps revient à insulter Allah en réalité subhanahu wa ta'ala. Car le temps est innocent du malheur qui t'est arrivé. Le malheur qui t'est arrivé ne t'est arrivé que parce qu'Allah azza wa jalla l'a décidé et décrété. Ainsi, insulter ou dénigrer le moment où cela est arrivé revient en réalité à insulter et dénigrer son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui disent par exemple, la vie n'a pas été généreuse avec moi. N'est-ce pas? Lorsqu'ils disent la vie n'a pas été généreuse avec moi, ils dénigrent la vie. C'est le temps de ta vie. Cette personne qui a souffert parce qu'elle a vécu toute sa vie dans le kufr, dans le shirk, c'était donc normal qu'elle souffre de cette façon, parce qu'elle était loin de son créateur, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'elle dit? La vie ne m'a rien donné. La vie est mauvaise. En réalité, là, il vient d'insulter Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, il faut faire bien attention à cela. Et l'auteur nous dit, كَقَوْلِهِمْ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Comme la parole des gens qui disaient « Et nous ne serons détruits que par le temps. » Ceux qui ont refusé d'adhérer au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'accepter la foi islamique qui sont appelés « Ad-Dahriya », ces gens-là disaient « Ce ne sont que des jours et des nuits qui passent. Et nous ne serons anéantis que par le temps. » C'est une vie qui passe. On ne vit qu'une fois. Masakin, on ne vit qu'une fois. Vous allez voir si vous vivez qu'une fois. Wallahu musta'an. Ainsi, ils attribuaient leur malheur au temps, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écoutez bien, dans le hadith Qudsi sahih, Yu'zin ibn Adam, le fils d'Adam me nuit. Le fils d'Adam me nuit. Yasubbu ad-dahra. Il insulte le temps. Allah Azza wa Jalla dit wa ana ad-dahr. Et je suis le temps. Biyadi al-amr. Dans ma main est toute l'affaire. Uqallibu layla wa an-nahar. Je fais se succéder la nuit et le jour. Lorsque dans le hadith, il est dit Yu'zini ibn Adam, qui a été traduit par le fils d'Adam me nuit. Peut-être que ce n'est pas la traduction la plus adéquate. Parce que comme vous le savez, rien ne nuit à Allah. Rien ne peut nuire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. En arabe, il y a deux choses. Une que l'on appelle al-aviyyatu et l'autre que l'on appelle al-durr. On l'a vu dans Kitab al-Tawhid. Al-aviyya est différent de ce que l'on appelle al-durr. Ad-dur, c'est le mal que tu fais atteindre à autrui. Ça, personne ne peut le faire à Allah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Ils ne nuiront rien à Allah Azza wa Jalla. Et il y a l'aviyya, ou l'adha, وَأَنْ تَقُولَ مَثَلًا شَيْئًا سَيِّئًا فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَكِنَّ هَذَا شَيْئًا لَا يَضُرُّهُ. الْأَذِيَّ وَالْأَذَى, la nuisance, c'est le fait, par exemple, de dire d'Allah Azza wa Jal quelque chose de mauvais, mais qui ne nuit pas à Allah Azza wa Jal. Donc, vous comprenez que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Yu'zin ibn Adam », c'est-à-dire le fils d'Adam dit à mon égard quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui ne doit pas se dire, mais cette chose-là ne nuit pas à Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a dit Yu'zin ibn Adam? Parce qu'il insulte le temps. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa ana ad-dahr. Et quand il dit wa ana ad-dahr, cela ne veut pas dire que ad-dahr fait partie des noms d'Allah. Comme quand il dit wa ana at-tawwab ar-rahim. At-tawwab ar-rahim sont deux noms d'Allah. Mais ici quand il dit wa ana ad-dahr et je suis le temps, Ça ne veut pas dire que Ad-Dahr est un nom d'Allah Azza wa Jal, mais l'explication vient tout de suite après, pardon, vient tout de suite après quand il dit Biyadi al-Amr, dans ma main est toute l'affaire, uqallibu al-layla wa al-nahar. Je fais se succéder la nuit et le jour. C'est ça que ça veut dire. C'est moi le temps. C'est-à-dire, je suis celui qui a créé le temps et qui fait succéder la nuit et le jour. Ainsi, insulter le temps revient à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc quelque chose de catastrophique dans le domaine de la croyance. Prenez donc garde. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, alaykoum assalam. Al-mas'alatu sabi'atu al-arba'un. La question 47. Idafatu ni'amillahi ila ghayrih. Le fait d'affilier les bienfaits d'Allah ou d'attribuer les bienfaits d'Allah à autre que lui. Allah tabaraka wa ta'ala te fait don de bienfaits. Il te donne la vie, la santé, la richesse. Ces bienfaits, tu te dois de les attribuer à Allah et de reconnaître qu'il est le seul bienfaiteur. Les causes que tu as, les efforts que tu as fournis pour atteindre ce bien que tu possèdes ou ces choses que tu as obtenues ne sont que des causes. En réalité, c'est le don d'Allah pour toi. Allah a choisi de te l'accorder. Même si tu te fatigues toute ta vie pour devenir riche, lorsque tu es devenu riche, ne dis jamais ce que les gens disent. C'est la sueur de mon front. Parce que cette parole est une parole de shirk, wal'iyadu billah. C'est une parole de shirk asrar. Polythéisme mineur, comme on le voit en détail dans Kitab ou Tawhid. Ce n'est pas la sueur de ton front. La sueur de ton front, c'est juste une cause. Les efforts que tu as faits sont juste des causes. C'est le don d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut dire, grâce à Allah, et Alhamdulillah qui m'a permis cette sueur du front. Parce que même la sueur de ton front, c'est une ni'ma d'Allah, un bienfait d'Allah. Si la sueur ne sort pas de ton front, tu tombes malade. Tout vient d'Allah, tout est un bienfait d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vrai ou faux, mes frères? Allahu Akbar. Tout revient à Allah. Lorsque tu entends des gens dire, j'ai travaillé pour avoir tout ça. J'ai eu tout ça parce que j'ai travaillé. Il ne se rend pas compte de la portée de sa parole. Parce que pour lui, c'est logique. J'ai travaillé, j'ai eu mon salaire, j'ai obtenu, j'ai acheté. En réalité, quelque chose lui échappe. Tu n'as pu travailler que grâce à Allah. Tu n'as trouvé ce travail que grâce à Allah. Tu n'as pu avoir cette subsistance que grâce à Allah. Tu n'as été créé que par Allah. Ce bien que tu as dans ta main n'a été créé que par Allah. Donc en vérité, tu dois toujours rattacher les bienfaits au bienfaiteur par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a cité la parole d'Allah azza wa jal. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. C'est-à-dire, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis le renient. L'on voit dans l'explication de ce verset, vous le voyez en détail dans Kitab ou Tawhid, du même auteur, rahimahullah, qu'il s'agit de ceux qui justement attribue le bienfait et le rattache à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui disent, par exemple, ils ont failli faire un accident, mais le pilote ou le conducteur est habile. Il manipule de telle sorte à ce qu'Allah, azza wa jal, leur fait éviter. Qu'est-ce que les gens disent? Parce que tu conduis bien. Heureusement que tu conduis bien. Pourquoi? Parce que d'après lui, si tu ne conduisais pas bien, on aurait pu tomber dans le gouffre. Ou alors, l'un d'entre eux qui a failli se faire cambrioler dit « Heureusement que j'ai le chien dans le jardin. » Ces paroles-là sont des paroles de Sheikh Asraf. Parce que ce chien était créé par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et la fuite de ces gens-là qui ont entendu le chien aboyer a été créée par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est toujours à Allah qu'il faut revenir, à Allah Azza wa Jal qu'il faut tout rattacher. Et comme dans la religion d'Allah Azza wa Jal, il y a le principe de ce que l'on appelle siyanatul aqaid, la préservation des croyances, kadhalika siyanatul alfaz, la préservation des termes. Car il y a des croyances qui relèvent du shirk, mais des paroles aussi qui relèvent du shirk. C'est pour cela que Cheikh Abdelrazak al-Badr dit que lorsque tu dis à l'un d'entre eux ce genre de paroles, il te dit « Oui, je sais que ça ne vient que d'Allah ». Cheikh Abdelrazak dit « Nous lui disons « Heureusement !» car sinon ça serait du shirk akbar, du polythéisme majeur. » Il n'y a rien de marrant. Allah y a dit. Parfois tu rigoles. Il fut dit au sujet de ce verset يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis le renient, et la plupart d'entre eux sont mécréants. Plusieurs choses ont été dites, parmi lesquelles, comme dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, ils reconnaissent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissent son message, puis ils le rejettent. Et dans d'autres explications, a été dit tout ce que vous venez d'entendre. Donc, le bienfait doit être rattaché uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala, non pas à ton intelligence, ni ta force, ni ta capacité, ni les efforts que tu as faits. Regarde ce que j'ai acheté, regarde ce que j'ai fait, tu n'as rien fait. Tout vient d'Allah, azzajal. Remercie Allah de t'avoir donné la capacité de faire ce que tu as pu faire, alors que l'autre en a été privé. Remercie Allah, regarde l'autre qui n'a pas. Et dit Allah m'a donné. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah dit Al-mas'alatu thaminatu al-arba'un. La question 48. Al-kufru bi ayatillah. La mécréance au verset d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les versets d'Allah qui ont été révélés dans ses livres révélés. Tels que At-Tawrah, la Torah. Al-Injil, l'évangile, Al-Zabur, qui a été donné à Daoud, alayhi salam, les psaumes, et Al-Qur'an. Ce sont les livres dont nous connaissons les noms. D'autres ont été révélés dont nous ignorons les noms. Mais de manière générale, le fait de renier les versets d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna alladhina kadhabu bi ayatina, wa stakbaru anha, la tufattahu lahum abwabu sama'. Ceux qui ont mécru ou qui ont renié nos versets et se sont enorgueillis face à eux, nos versets. Les portes du ciel ne leur seront jamais ouvertes. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que lorsque la personne meurt qui a mécru en Allah azza wa jal, son âme est élevée. Lorsqu'on arrive à la porte du premier ciel, et qu'on demande à entrer, l'accès est refusé. Alors son âme est rejetée. Elle est lâchée du premier ciel jusqu'à atterrir dans l'endroit de sa tombe. Et la personne ressent la douleur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cette chose, il a récité ce verset. Ceux qui mécroient en nos signes et s'enflent d'orgueil devant eux, les portes du ciel ne leur seront jamais ouvertes. Voilà, iyadhu billah. Également Allah azza wa jalla dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي. Ceux qui ont mécru au verset d'Allah et à sa rencontre, au signe d'Allah et à sa rencontre, ceux-là ont désespéré de ma miséricorde. Allah Azza wa Jal ne leur fera donc pas miséricorde. Ainsi, le fait de renier un seul verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme renier tout le livre d'Allah. Un mot du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est comme renier tout le livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'on voit chez ceux qui sont appelés al-aqlaniyoun. Al-aqlaniyoun, je ne sais pas comment le dire en français, mais ce sont les gens qui se basent sur leur raisonnement. Comme Al-Mu'tazila et les autres sectes. Il se base sur leur raisonnement. Il entend un verset, il dit « ce n'est pas possible ». Donc puisque sa tête malsaine, pourrie, lui a dit que ce n'est pas possible, il rejette un verset d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un égarement évident, car le livre d'Allah est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, جحد بعضها. C'est une question qui est en relation avec la précédente. Dans la précédente, il s'agissait de renier tous les versets d'Allah. Dans celle-ci, renier une partie des versets d'Allah. Tout ça pour que vous compreniez que peu importe que la personne renie un verset, quelques versets ou tout le livre, c'est la même chose. La personne qui renie un verset d'Allah, quelques versets, quelques mots du livre d'Allah, Azza wa Jal, est exactement comme celle qui a renié tous les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les gens de ces agissements en leur disant « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ » C'est-à-dire, allez-vous croire en une partie du livre tout en mécroyant en une autre partie ?« فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » Quelle rétribution pour ceux qui agissent ainsi, autre que l'avilissement dans cette vie d'ici-bas. Et dans la fin du verset, le châtiment, le jour de la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc des gens qui renient une partie des versets, car ces versets ne sont pas en concordance avec leurs désirs, avec leurs passions, avec ce qu'ils ont envie de faire. Ce verset ne me plaît pas, je l'enlève. Et ça, c'est ce qui a été fait avec les deux livres que sont At-Tawrah, la Torah et l'Évangile, qui ont été falsifiés. Ces deux livres, lorsqu'ils ont été révélés, ils étaient la parole d'Allah du début à la fin, infalsifiés. Mais plus tard, ils ont été falsifiés. Des versets ont été enlevés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit المسألة الخمسون la question 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء leur parole lorsqu'il disait d'après le sens du verset Allah n'a rien fait descendre sur un homme sur un humain là qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent renier le Coran et dire qu'Allah Azza wa Jal n'a rien révélé ils renient donc la révélation d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Il renie tous les messages d'Allah tabaraka wa ta'ala et les livres qu'il a révélés. Qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad est arrivé et a prêché à l'islam, plusieurs communautés qui faisaient partie justement des gens de l'ère pré-islamique étaient face à lui. Il y avait notamment les polythéistes adorateurs d'idoles. Il y avait Ad-Dahriya, ceux qui disaient que c'est le temps qui nous anéantit. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens. Il y avait beaucoup de croyances qui étaient toutes erronées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu leur transmettre le message d'Allah. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit « Allah n'a jamais rien fait descendre sur un homme, sur un humain. » Pas de révélation. Ils ont renié toutes les révélations. Qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi? La haine qui habitait leur cœur envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala leur a répondu « قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ » Dis, réponds-leur. Qui a fait descendre le livre avec lequel Moussa est venu en lumière et guidé pour les gens? Parce que là, Allah Azzajal s'adresse à ceux qui s'affiliaient à Moussa, la communauté de son époque qui prétendait suivre le prophète Moussa, alayhi salam, Moïse. Et quand le prophète est arrivé, alayhi salatu wassalam, ils ont dit, Allah n'a rien légiféré. Mais en agissant ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, alors qui est-ce qui a révélé le livre avec lequel Moussa est venu, vous qui prétendez le suivre? Et ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à leur ambiguïté. Et plus tard, des sectes vont arriver, dont Al-Jahmiyyah, qui ont une croyance qui est que le Coran n'est pas la révélation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas révélé le Coran. Wal'iyadu billah. Et les gens de la Sunna ont dit, le Coran est la parole révélée d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit parmi les égarés, la Sunna n'est pas une révélation d'Allah. Il y a des sectes parmi lesquelles ce que l'on appelle Al-Qur'aniyun. Ils disent, nous ne prenons que le Coran. Ils mentent, car dans le Coran, on ne nous parle pas du nombre de rak'ah dans la prière. Dans le Coran, des détails concernant la zakat, l'aumône à donner aux pauvres, ne sont pas donnés. Dans le Coran, certains détails concernant le pèlerinage ne sont pas donnés. Où est-ce que ces gens-là qui disent ne prendre que le Coran ont pris ces enseignements? Dans la Sunna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa Sunna, nous enseigne l'explication et l'application du livre d'Allah. Le Coran et la Sunna sont deux sources de révélation inséparables. Celui qui mécroit à la Sunna a mécru à l'islam. Il n'est pas croyant. Abadan. Donc, ces gens-là ont suivi les gens de l'ère pré-islamique en reniant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, المسألة الحادية والخمسون question 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. Toujours concernant le Coran, leur parole, quand ils disaient ce n'est que la parole d'un homme. Là, ils veulent nier que le Coran est révélé et affirmer que le Coran est créé. Parce que la parole d'un homme est créée. La parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée. C'est un attribut d'Allah. Tout comme tu dirais, la miséricorde d'Allah n'est pas créée. C'est un attribut d'Allah. Tout comme tu dirais, la science d'Allah n'est pas créée. C'est un attribut d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah est décrit par cet attribut. La parole n'est donc pas une création. Nous avons vu que Al-Jahmiyyah refuse de croire à la révélation, dans le sens où ils disent que ce n'est pas la parole d'Allah, tout comme la secte des Al-Mu'tazila, qui ont tout fait pour dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, alors que c'est la parole d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des polythéistes te demande l'asile, accorde-lui donc, afin qu'il écoute la parole d'Allah. Il n'y a pas plus clair que cela. Al-Mu'tazila, cette secte égarée, ont des suiveurs à notre époque. Et en ce moment, dans ce pays, il y a une tête de l'égarement qui veut enlever des versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais qui comprend que chez les musulmans, les versets du livre d'Allah sont fondamentaux. On ne peut pas y toucher. Certes, il y a des interprétations égarées. Cependant, à cause d'une mauvaise interprétation, va-t-on effacer la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Non. Cet individu mauvais et maudit, incha'Allah, a dit qu'il faut convaincre les gens que le Coran est créé. Pourquoi? Parce que si on arrive à les convaincre que le Coran est créé, on peut enlever des versets. Ça ne va pas les atteindre. Parce que si on les a convaincus que c'est la parole d'un homme qui n'est pas la parole d'Allah, c'est une créature, on peut enlever des versets. Alors on s'amusera à enlever tous les versets qui ne sont pas en concordance avec ce que nous voulons faire. Voilà. Tu vas en faire des efforts, pauvre misérable, et tu n'y arriveras jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Allah, il protège le Coran. Subhanahu wa ta'ala. Tu vas dans des pays où les gens ne parlent même pas la langue arabe et tu vas trouver des centaines d'enfants qui l'ont déjà dans le cœur. Par cœur. Tu peux rien faire. القرآن كلام الله ثابت لا أحد يغيره أبدا. Personne ne pourra jamais changer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces gens-là disaient que c'est la parole d'un homme. Ils voulaient dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, à l'instar des Jahmiyyah et des Mu'tazila, que c'est une création. Wal'iyadu billah. Alors que non, le Coran c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Al-mas'alatu thaniyatu wal-khamsoun, la question 52. Al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala. Ces gens-là dénigraient la sagesse d'Allah, azza wa jal. Vous savez tous que tout ce qu'Allah fait, tout ce qu'Allah crée, tout ce qu'il ordonne, tout ce qu'il interdit, tout ce qui vient d'Allah est parfaitement sage. Il y a derrière toute chose venant d'Allah une sagesse parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'homme pour une sagesse parfaite. C'est l'adoration. Il a créé les péchés pour une sagesse parfaite. Tant pour la tentation, pour l'examen, pour l'épreuve. Comment vas-tu payer ta place au paradis? En voyant devant toi des attirances, des envies de péché, devant lesquelles tu devras t'abstenir. Tout ce qui est créé par Allah a une sagesse. Pour cela, ceux qui ont dit qu'il y a une contradiction entre le destin et les ordres et interdits d'Allah, la sagesse d'Allah leur a échappé. Et donc, voyez ici que ces gens-là, justement, remettaient en cause la sagesse d'Allah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, nous dit وَالْحِكْمَةُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ فَالْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَضِعِهَا اللَّائِقَةِ بِهَا. La sagesse consiste à poser chaque chose à sa place. C'est-à-dire que chaque chose qui est fait comme elle doit l'être et pour une raison parfaite. Ainsi, le sage est celui qui fait qui pose les choses à leur place, aux places qui conviennent aux choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même par la sagesse. Parmi les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-hakim. Al-hakim, celui qui est infiniment sage. Allah tabaraka wa ta'ala a créé toutes les créatures pour une sagesse parfaite. Pour une sagesse parfaite. Rien n'est insignifiant chez Allah. Rien n'a été créé par Allah Azza wa Jal sans sagesse. Toutes les catégories de créatures d'Allah Azza wa Jal renferment une sagesse. Allah Azza wa Jal a dit, Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous dit, Wa ma khalaqana as-sama'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Ce n'est pas pour jouer que nous avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux. Dans l'autre verset, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Et ce n'est pas en vain que nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire, c'est plutôt pour une sagesse. Tout ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre et entre les cieux et la terre a été créé par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour une sagesse parfaite. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Telle est la pensée que se sont fait ceux qui ont mécru. Malheur alors à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, lorsque ces gens-là qui habiteront le feu seront châtiés, ces gens-là qui pensaient avoir été créés vainement, Allah Azza wa Jal leur dira pendant qu'ils seront dans le feu, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé vainement et que vous ne reviendrez pas vers nous? Voyez comment Allah tabaraka wa ta'ala va reprendre ces gens-là et va les rappeler à la réalité à laquelle ils étaient insouciants, à laquelle ils ne voulaient pas adhérer. Ainsi, tout ce qu'Allah fait, il y a derrière cela une sagesse, une hikmah. Ma min fi'li min af'alillah, illa wa min wara'ihi hikmah. Ya'lamuha subhanahu wa ta'ala wa huwa al-hakim al-khabir. Allah est parfaitement sage et parfaitement connaisseur de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم